Salut, c'est Nemo et vous êtes bien sur Music Sound Better With Us, le podcast qui vous raconte les petites et les grandes histoires de la musique. Après notre série consacrée au groupe Sonic Youth, mais aussi à la BO du film Judgment Night, à Black Flag et Raymond Petitbon, et même les Moors Murders, voici un premier épisode où je vais vous parler d'un de mes groupes préférés, le Wu-Tang Clan. Et pour commencer, je vais vous parler sampling visuel et musical, musique de film et soul des années 60, mafia italienne et chambara, blaxploitation et bushido. Aujourd'hui, je vous parle de Ghost Dog, le film de Jim Jarmusch sorti en 1999 avec sa BO légendaire de Reza et plein de Wu-Tang dedans. Music Sound Better With Us, c'est un podcast, mais c'est surtout une boutique en ligne où vous retrouvez tous les vêtements, accessoires, disques, figurines et pièces de collection associées au sujet dont je vous parle. Concernant le Wu-Tang, nous vous proposons les albums en vinyle neuf, des cassettes ou des VHS vintage et des figurines reaction de certains membres du groupe. Allez, le Wu-Tang dans Music Sound Better With Us, c'est parti! En 1994, j'ai 15 ans, et deux découvertes vont changer ma vie de passionné de culture. D'un côté, il y a le Wu-Tang, dont j'ingurgite le premier album, puis celui de Method Man, et surtout beaucoup beaucoup de clips. De l'autre, c'est Pulp Fiction de Quentin Tarantino, que je vois au cinéma en VO, et je pense que c'est le premier film que je vois en VO de ma vie, car au milieu des années 90, c'est plus difficile d'accès. Il n'y a pas de DVD, pas de multilingue sur la télé, pas de séance systématique au cinéma, donc c'est compliqué d'avoir un film en VO. Et dans les deux cas, Wu-Tang comme Tarantino, je suis abreuvé de références. Au début, sans trop le savoir, puis au fil des semaines, au fil des années, je prends conscience de la force du sampling visuel et sonore qui m'a nourri. Il y a beaucoup de vases communicants entre la production de Reza, le leader du Wu-Tang, et la réalisation de Quentin Tarantino, le mastermind derrière Pulp Fiction. Il y a un amour de la référence tout azimut, de la soul du label iRecords, produit par Willie Mitchell, des chorégraphies de Kung Fu des Chow Brothers, du cinéma explosif de John Woo, des histoires macabres de gangsters italiens et de l'énergie de la blaxploitation des années 70. En accordant mon amour du cinéma avec celui de la musique, ce que je fais depuis toujours, le Wu-Tang et Tarantino m'ont ouvert des milliers de portes qui se sont ouvertes sur d'autres portes, et encore d'autres portes, un dédale sans fin de pièces de culture. C'était mon internet avant l'heure, un énorme index d'hyperliens qui permettait de sauter d'un genre à l'autre, de découvrir des univers complets, américains, hongkongais, chinois ou japonais. Pendant 5 ans, entre 1994 et 1999, je vais absorber des millions de références, autant musicales que cinématographiques, et le point d'entrée est toujours le sample. Développé dans les années 80 grâce à un avancement technologique et une machine appelée tout simplement le sampleur, la technique de l'échantillon a durablement changé ma façon de consommer l'art et la culture. Chaque morceau de rap m'ouvre alors à une galaxie de soul, de jazz, de funk. Chaque film m'emporte vers un univers de comédie des années 60-70, de films d'action des années 80-90 et de plein de regards nouveaux. À force, cette façon de fonctionner m'a même parfois trop atteinte, comme si tout avait déjà existé, comme si tout était une ref et que rien ne pouvait se créer sans sample derrière. Mais je me souviens de cette période comme une vraie bénédiction. J'étais atteint d'une boulimie culturelle sans fin, un tourbillon d'images et de sons que je continuerai de creuser avec l'arrivée d'Internet partout dans le monde. Mais avant le développement d'Internet, cette petite période entre 95 et 99 où les références étaient cachées, dures à trouver, réservées aux initiés, reste ma réelle formation, ma mécanique implacable de connaissances. Et il y a un film qui va vraiment synthétiser tout ça, même lui mettre un point final quelque part. C'est Ghost Dog de Jim Jarmusch, donc, qui sort en 1999. Il y a tout dedans, et je vous explique maintenant pourquoi sur Music Sound Better With Us. À la fin des années 90, Jim Jarmusch est un symbole d'un cinéma indépendant onirique très proche de la musique. Dès le départ, avec son premier film Strangers in Paradise, Jim fait des liens avec la musique via son casting, vu que les trois personnages principaux sont des musiciens. De jazz avec John Lurie, qu'il utilisera plusieurs fois dans d'autres films, de post-rock avec l'ex-batteur de Sonic Youth, dont je vous ai parlé dans les podcasts précédents, ou de musique classique. Sur Down by Law, son film néo-noir en prison, il invite Tom Waits et encore John Lurie, donc deux artistes hors pair. Et Tom Waits revient très souvent au fil de la filmographie de Jim Jarmusch. Au milieu des années 90, son cinéma devient de plus en plus populaire grâce au très poétique Dead Man, sorte de western surréaliste mortuaire d'une poésie rare avec Johnny Depp dans le rôle principal et Neil Young pour composer la bande originale. C'est pour ce même Neil Young que Jim réalise le documentaire Year of the Horse à propos de son groupe Crazy Horse. Il va d'ailleurs les suivre en tournée et leur faire vraiment un documentaire très proche de la musique. Après Dead Man, Jim Jarmusch cherche son prochain film sans but particulier. Il se laisse un peu attraper par les idées qui viennent. Et c'est une rencontre fortuite qui va le mener à la suite. Jim est donc en train de travailler sur le docu Year of the Horse pour Neil Young et son groupe Crazy Horse. Et il n'a quasiment que des rushs en Super 8. En effet, il a fait plein de tests d'images un peu stylés et c'est la qualité Super 8 qui lui donne le plus d'authenticité et qu'il préfère. Il est à ce moment-là à Los Angeles pour monter et réaliser une partie du documentaire et il passe régulièrement dans une boutique spécialisée pour développer ses pellicules Super 8. C'est dans la vallée de LA et c'est un magasin qui s'appelle Super 8 Sound. Un jour où il passe pour faire un développement de pellicule, il croise un grand type imposant qui sort de sa voiture sur le parking. C'est Forrest Whitaker. Passionné de Super 8 lui aussi, il vient faire réparer une de ses caméras et développer quelques films. C'est la première fois qu'ils se rencontrent vraiment, Jim et Forrest. Ils parlent de cinéma, de Super 8 et de leur admiration mutuelle pour leur travail respectif. Ils ont beaucoup de points communs. Forrest parle de Dead Man, il a adoré, et Jim parle de Bird, le film de Clint Eastwood où Forrest joue Charlie Parker, alias Bird, le saxophoniste génial et torturé qui inventa le bebop jazz. Jim adore tellement ce film qu'il en fera un clin d'œil dans Ghost Dog. En effet, il va appeler une boutique pour les oiseaux dans laquelle Forrest va aller, Birdland, comme le club de jazz mythique de Charlie Parker. Un petit clin d'œil, et encore un clin d'œil musical. Bref, avec Jim, il y a toujours de la musique en filigrane, et ça tombe bien parce que avec Forrest aussi. Ils parlent beaucoup de jazz, de blues, et de leur rapport à la musique, de leur inspiration. Et là, Forrest lui dit « Si tu penses à un personnage pour moi dans un de tes films, je serais vraiment ravi. » Jim repart de cette boutique avec un enchevêtrement d'idées, il veut bosser avec Forrest Whitaker, et il va lui trouver un personnage. C'est le point de départ, cette rencontre sur un parking. Il veut que ce soit un personnage que Forrest n'a jamais joué auparavant. Il veut du total inédit. Et quand Jim Jarmusch commence à créer ce personnage sur mesure pour Forrest, il fait un collage de toutes ses inspirations du moment. Ces inspirations sont complètement les miennes et celles de toute une contre-culture des années 90. J'étais pas tout seul, en effet. La référence principale de Jim Jarmusch à ce moment-là pour façonner Ghost Dog, ce personnage pour Forrest Whitaker, c'est le Chambara. Chambara, c'est un genre de film japonais qu'on pourrait appeler film de sabre ou de samouraï, comme en Europe on a eu par exemple les films de KPDP, et aux États-Unis, bon, ils ont eu les westerns. D'ailleurs, rien que le mot Chambara vient du bruit que fait le sabre quand il tranche l'air et les membres humains. Le tout remis en onomatopée japonais, Chambara. Jim voit Forrest en samouraï moderne, un mélange des personnages de Chambara japonais avec les wuxia chinois et les westerns à la Sergio Leone et les films de Bloxploitation avec Jim Kelly qui mélange un peu gangster et arts martiaux. C'est là qu'on voit que le background très années 90 est le même pour des gens aussi différents que Quentin Tarantino à Los Angeles, Jim Jarmusch dans le centre de New York et Reza dans les quartiers durs de Staten Island. Et la source de tout ça, c'est les séances double ou triple feature, comme on les appelait, dans les années 70 et début 80, ces soirées pas chères au cinéma où on pouvait voir deux ou trois films de genre à la suite et qui brassaient large entre le cinéma asiatique, italien, américain, tout ce qu'on appellera ensuite film d'exploitation ou film de genre. Jim veut lui aussi créer son film de genre, un collage de toutes ses références mis bout à bout avec son point de vue qui est lui très laconique et poétique. Et ce film de genre commence par un personnage fort. Forrest Whitaker, en samouraï tueur à gages, moderne, anachronique, impassible et quasi muet. En effet, quand le film sort, on remarque que pendant les 35 premières minutes du film, Forrest ne dit pas un mot. Chacun de ses gestes est mesuré, calculé, gracieux. La façon qu'il a de remettre son pistolet dans son holster, on a l'impression que c'est un sabre. Il y a toute une gestuelle, chaque phrase est précieuse. Les seules ponctuations sont des citations d'un livre qui s'appelle le Hagakure de Yamamoto Tsunetomo, qui est en fait un code de l'honneur du samouraï, aussi crypté que poétique, aussi décalé que intemporel. Et d'ailleurs, la force des livres est très présente dans le film et dans l'écriture du scénario de Jim Jarmusch. Ghost Dog, le personnage de Forest Whitaker, lit souvent des romans, des essais, il parle bouquins, comme Frankenstein avec une petite fille au parc. Le livre est partout. Il rythme la narration comme des chapitres.
The way of the samurai is found in death. Meditation on inevitable death should be performed daily. Every day when one's body and mind are at peace, one should meditate upon being ripped apart by arrows, rifles, spears, and swords. Being carried away by surging waves, being thrown into the midst of a great fire, being struck by lightning, being shaken to death by a great earthquake, falling from thousand-foot cliffs, dying of disease, or committing seppuku at the death of one's master. And every day, without fail, one should consider himself as dead. This is the substance of the way of the samurai.
Et ce bouquin, le Hagakure, ouvre complètement le récit, c'est lui qui donne le ton, et ça, ça vient de la référence principale de Jim Jarmusch pour son personnage, son style de réalisation lancinante, et cette longue pérégrination contemplative, et cette ref ultime, elle est française, c'est le samouraï de Jean-Pierre Melville. Et là, on trouve un peu le sample ultime, le sample principal, la vraie source de tout. Sorti en 1967, Le Samouraï commence lui aussi par une citation d'un code du samouraï, le Bushido. Bon, apparemment, cette citation a été totalement inventée par le réalisateur Jean-Pierre Melville, mais son propos n'en est pas moins l'ouverture du récit, comme pour Ghost Dog. Et ce n'est pas le seul point commun entre les deux films. Car ce personnage fort de Forest Whitaker, Jim Jarmusch le calque quasi entièrement sur celui du tueur à gages, samouraï, Jeff Costello, joué par Alain Delon. En effet, Ghost Dog vit dans un pigeonnier sur un rooftop et ses seuls amis sont des pigeons. Jeff Costello vit seul dans un appart vide et son seul ami est un chardonneret dans une cage qu'il chérit chaque jour. Premier point commun. Les oiseaux seront d'ailleurs dans les deux films leur moyen d'alerte et de communication avec le monde extérieur. Deuxième point commun, la routine de Jeff Costello dans le Samouraï, c'est de braquer des Citroën DS neuves avec un énorme trousseau de clés avant de rider tranquille dans les rues de Paris. Et bien dès le début du film, Ghost Dog braque des Mercedes ou des Lexus avec une sorte de gadget électronique qu'il a fabriqué lui-même et qu'on le voit bidouiller à un moment. Les plans sont similaires, lents, basés sur des petits détails, des petits gestes. Un des détails les plus stylés d'ailleurs, c'est le port des gants blancs. À chaque boulot, Jeff Costello dans Le Samouraï, comme Ghost Dog, porte des gants blancs. Et c'est une marotte de Jean-Pierre Melville. Car dans tous ses films, les tueurs portent des gants blancs. Et pas n'importe lesquels, les gants blancs des monteurs de cinéma. Ceux qu'ils portent pour découper soigneusement les pellicules et les recoller pour adapter un rythme. Donc la référence méta ultime. Les tueurs, dans les films de Jean-Pierre Melville et donc dans Ghost Dog, portent des gants blancs de monteurs de cinéma. Et dernier point commun, même la fin des deux films est totalement la même, mais je ne vais pas vous spoiler tout de suite, on va en reparler un peu après. Donc ce samouraï de Melville est une source principale pour plein d'autres films de genre, notamment en Italie, chez Fernando Di Leo et sa trilogie du milieu, puis plus tard à Hong Kong, chez John Woo pour son fameux The Killer, qui est aussi une référence de Ghost Dog. C'est intéressant de voir comme ça le cheminement et essayer de trouver la source principale de tous ces films, et en fait, la vraie inspiration première, le vrai sample original, c'est Le Samouraï, un film français de Jean-Pierre Melville, sorti en 1967. Je trouve ça un peu passionnant, comment ça s'est diffusé dans le monde entier et comment ça s'est inspiré de partout, sachant que Le Samouraï est déjà une relecture des films américains, des films noirs américains dont était passionné Jean-Pierre Melville, même des côtés un peu plus western. Donc c'est une relecture française d'un genre très américain. Je trouve ça passionnant de voir ces multiples référentiels. Mais en tout cas, Le Samouraï de Melville, c'est un peu la source principale. Mais pour Ghost Dog, Jim Jarmusch va encore plus loin parce qu'il en fait sa référence principale, sa source de tueur en gage solitaire, mais il va la saupoudrer des expérimentations du japonais Senji Suzuki, très friand des tueurs lui aussi, notamment dans son parfait Branded to Kill, dont Jim sample quelques scènes. Et Jim va aussi agrémenter d'un soupçon de John Borman, dont le violent Point Blank avec Lee Marvin transparaît aussi doucement derrière son Ghost Dog. Tous ces personnages sont peu bavards, pleins d'abnégation, de style très méticuleux, attentif aux détails, réglés par un code avec une folie douce non négligeable. Donc voilà, avec toute cette profondeur du personnage Ghost Dog, Jim a trouvé son élément central. Mais il lui faut maintenant ses rêves pivots pour créer une histoire, un univers. Et la rêve première, c'est Rashomon. Un livre, encore un livre, il y a beaucoup de livres dans ce film, mais c'est surtout un film d'Akira Kurosawa qui sortira en 1950. Et là encore, on touche à un sample source, vraiment un sample original. Rashomon est à la base une nouvelle qui a la particularité de raconter la même histoire, mais de plusieurs points de vue, celui de chaque personnage. Ainsi, on apprend à voir la perspective de chacun, le prisme d'une même réalité vue par des personnes différentes. C'est très philosophique. Jim va à la fois utiliser l'œuvre Rashomon comme fil rouge, un livre qui se passe de main en main, mais aussi une allégorie de la vie, chaque événement du film étant perçu différemment par chaque personnage. Le livre Rashomon devient ainsi un passeur de culture, de savoir, entre la fille d'un boss de la mafia et Ghost Dog, puis entre Ghost Dog et la fille du parc, jusqu'à la fin du film où la fille du parc lui rend le livre et lui fait sa petite fiche de lecture. C'est intéressant de trouver ainsi la rêve des rêves des rêves. Car comme pour le samouraï, Rashomon et Kurosawa, c'est la référence des références des films de genre. Car le personnage par exemple de l'homme sans nom dans les films de Sergio Leone, ça vient d'Akira Kurosawa. Les westerns crépusculaires à la Sept Mercenaires, ça vient aussi des films d'Akira Kurosawa. Même Star Wars, ça vient en partie d'Akira Kurosawa. En remontant à la source, on se rend compte que les refs en cascade, comme le samouraï, comme Rashomon de Kurosawa, peuvent arriver à une source unique, celle dont tout découle, le sample ultime. Et avec ce collage de samples dans tous les sens, Jim et Forrest développent une allégorie de la vie, un patchwork sans but, sans sens, mais qui se tient et qui s'érige comme une synthèse d'un tout. Un peu absurde. Pris côte à côte, chaque sample a une toute petite portée, mais ensemble, ils atteignent une précision et une poésie rares, l'essence même de la vie. Bon, je m'égare un peu et vous allez me dire, et la musique dans tout ça ? J'en ai parlé un peu, mais j'avoue, le podcast s'appelle tout de même Music Some Better With Us, et là je vous parle de philosophie, de Rashomon, de cadrage laconique, bon. Eh bien, en fait, tout a un sens, car la musique, c'est encore un sample à ajouter à la recette de Ghost Dog. Et c'est encore avec une rencontre, comme celle avec Forest Whitaker sur un parking, que la musique va devenir aussi importante que le film. Comme beaucoup d'acteurs de la scène post-punk des années 80, Jim Jarmusch est fan de hip-hop. Il est d'ailleurs proche de groupes comme Sonic Youth, dont je vous ai parlé récemment, de leur relation avec le rap dans ce podcast. Dans les années 90, Jim est surtout friand d'un groupe, le Wu-Tang Clan. Il kiffe leur ref, leur côté brut, leur rapport au cinéma, très visuel, mais aussi très ésotérique. Et ce collage de kung-fu, de blaxploitation et de films de gangsters italiens dans leur musique correspond parfaitement à l'idée qu'il se fait de la musique de Ghost Dog, son film. Il s'est même inspiré des textes et des concepts de la musique du Wu pour écrire le personnage de Forest Whitaker. Et il s'est aussi fait une compilation des instrumentaux de Reza, qu'on trouvait alors sur les face B des maxi-vinyles pour les DJ, car ces instrus évoquaient énormément d'images et d'émotions pour lui, une vraie bande-son à elle toute seule. Au fur et à mesure, Reza et le Wu deviennent indispensables à son film. Il cherche alors à entrer en contact avec Reza et son équipe, et tout passe en dehors du circuit habituel. Le neveu de Jim, Nemo Librizzi, est un artiste qui connaît pas mal de monde à New York. Il est notamment très pote avec Dreddy Kruger, qui s'avère être rappeur dans le groupe Royal Fame des affiliés du Wu-Tang. On connaît bien Dreddy Kruger et Royal Fame en France, car ce sont eux qui sont en featuring sur le morceau La Saga de I Am, rappelez-vous.
Yo, I am sons of man from the royal fam. Never ate ham, never gave a damn.
In the beginning there was darkness, then came light. I grabbed the mic, then dish your ass just for spite. What? You can't fuck with the flows I bring. Watch the staff I swing. It's Timbo.
Dreddy devient super pote avec Jim et décide de lui présenter Reza. Le leader du Wu est alors en recherche de bosser sur une première musique de film. En effet, il a eu une discussion avec Quincy Jones qui lui a dit qu'il avait réalisé sa première BO à 30 ans. Et Reza veut relever le défi, lui qui a grandi, avec les musiques de films de Blaxploitation composées par Curtis Mayfield, Bobby Womack, Marvin Gaye ou Isaac Hayes. Il pense que son prochain défi serait vraiment de produire une musique de film. Il est très intéressé, quand il rencontre Jim, de bosser sur ce film Ghost Dog qui lui paraît être la première pièce indispensable pour réaliser sa première BO. Mais vu qu'il n'a aucune expérience en la matière, il va chercher son inspiration à la source de la source pour écrire des termes de personnages. Il va étudier Pierre et le loup de Sergueï Prokofiev ainsi que Le lac des cygnes de Tchaïkovski. On ne peut pas faire plus classique. Et Reza y apprend énormément sur la composition d'un thème musical qui accompagne un personnage, un univers ou une émotion. Et finalement, la conception de la BO va se faire au fur et à mesure, un peu comme les pérégrinations de Ghost Dog dans le film, c'est-à-dire que Jim Jarmusch dira qu'il avait rendez-vous avec Reza des fois en pleine rue, il disait « j'ai commencé quelque chose, viens on se donne rendez-vous » et hop, il lui donnait un petit DAT. À l'inverse, Jim Jarmusch lui donnait des VHS pour qu'il arrive à synchroniser les sons comme ça, et on sent qu'on a vraiment une vraie bande-son hip-hop, c'est peut-être la première vraie bande-son hip-hop produite, pas uniquement des morceaux qui sont récupérés pour illustrer un film, qui est vraiment au service du film, au service du cinéma. Et on sent que beaucoup de scènes de Ghost Dog sont entièrement rythmées par la musique et que c'est presque la musique qui en fait, les productions de Reza qui en fait un film complètement à part. Ce qui est fou, c'est que cette BO qui est donc mythique n'est pas sortie tout de suite en disque, parce que Jim Jarmusch disait bah écoute, moi je vais pas sortir la BO du disque, enfin la BO du film en disque, elle t'appartient à toi. Et Reza était plus intéressé de faire une musique, un album en fait qui soit inspiré du film Ghost Dog, et donc de faire une compilation avec beaucoup de rappeurs du Wu-Tang et des affiliés du Wu-Tang, plutôt que juste sortir les instrumentales, la BO en fait exacte produite du film. Donc cette BO va sortir uniquement au Japon et va être très peu disponible, et en fait aux États-Unis et en Europe on va avoir un album Ghost Dog dans lequel il y aura beaucoup de morceaux du Wu-Tang, notamment un morceau que moi j'adorais avec Kool G Rap qui s'appelait Cakes, et plein de morceaux comme ça, des nouveaux morceaux inédits inspirés de l'ambiance Ghost Dog. Donc vraiment, Ghost Dog, c'est un film Wu-Tang, ça ne pourrait pas exister sans le Wu-Tang. Et d'ailleurs, le Wu-Tang va être un peu partout aussi dans le film. Il y a des rappeurs que croise Ghost Dog dans le parc, c'est T-Bo King, Dreddy Kruger, encore lui, qui rappe sur l'instru de Ice Cream, le morceau de Raekwon que Jim aimait beaucoup. Yo, we on a conquest, a mercenary strike force, another life lost, murdered on the ice cross, vengeance, black ninjas with monkey wrenches, multiple gunshot wounds from 9 inches, 2010 cyborgs with heat sensors, Astro, my ghost dogs that climb fences. Hey yo, check this, license plate state Texas, white Lexus, my diamond necklace, got me living reckless, got me wiping cats out on my shitless, I move with the 360, my queen flow, 6.000, black mafia, mind De Niro, in my hood I'm a hero. Ghost Dog met du son dans la voiture qu'il vient de voler, et là pouf, un morceau inédit du Wu-Tang avec Method Man qu'on entend rapper. It all starts with the pad and pen, shall we begin to burn butch in this rap session? Once again on the run, meet the black stallion, now you fucking with the galleon. Iron lung boy, me can't done, army of one, blaze your bun, I'ma get you none except challenge. Ha, run a mile with a racist, they iced it, I aced it, placed it, right up in they face till they faced it, hard to the dome like a chrome microphone, I'm bad to the bone, danger, zone, that's my life and my song, keep it moving, hop alone little dog. Plus tard on entend aussi un morceau avec Killa Priest. Plus subtil encore, en pleine nuit, Ghost Dog passe devant un club au néon immaculé, et devinez le nom du club. Eh bien, c'est Liquid Swords, comme l'album de Genius, The Jezza, membre du Wu le plus crypté et proche de l'univers de Ghost Dog. Le Wu est partout, jusqu'à une scène proche de la fin où Reza apparaît, croise Ghost Dog, comme deux samouraïs d'une autre époque qui se comprennent, deux visions d'un monde qui touche à sa fin. Ghost Dog, power, equality. Always see everything, brother. Et cette scène est un peu étrange en fait quand on y repense, parce que à la fois on voit que c'est donc la rencontre entre Forest Whitaker, Ghost Dog et Reza, comme s'ils se connaissaient, comme s'ils avaient le même parcours, s'ils avaient le même code et qu'ils avaient l'impression d'être des samouraïs un peu en dehors du monde actuel. Et en même temps, vu ce qui va se passer à la fin du film, juste après, on a l'impression que c'est aussi, ça marque la fin de... Bon, attendez, là, je vais pas tarder à spoiler. Donc, je vous explique maintenant ce qui se passe à la fin et pourquoi. Si jamais vous voulez voir le film et que vous voulez pas connaître la fin, sautez maintenant à la fin de l'épisode. Voilà, vous êtes resté, vous voulez vous faire spoiler, mais s'il y a bien une conclusion à toute cette histoire, c'est que le film, sa genèse, la fin de Ghost Dog, c'est une sorte de suicide. Un dernier duel avec un pistolet non chargé, exactement comme Alain Delon dans Le Samouraï de Melville. Ghost Dog est en fait un point final de tout. C'est la fin d'un certain rap des années 90. C'est aussi la fin de la grandiloquence de la mafia italienne qui d'ailleurs écoute du rap, du Public Enemy dans le film. Marrant de noter d'ailleurs que Ghost Dog et la première saison des Sopranos sortent en quelques semaines d'intervalle, marquant une vision d'une mafia vieillissante et parfois peu reluisante. Ghost Dog, c'est aussi la fin d'une session de films de genre très 90, le cinéma de Tarantino notamment. Ghost Dog est d'ailleurs le chaînon manquant entre deux films de Tarantino, Jackie Brown et Kill Bill. Empreint d'une certaine nostalgie, finalement Ghost Dog, c'est un peu la synthèse qui ne sera plus vraiment pertinente ensuite dans les années 2000, en tout cas de mon point de vue. Ghost Dog marque aussi quelque part la fin du Wu-Tang, car à l'orée des années 2000, le collectif voit son impact s'amenuiser petit à petit. Les albums sont moins bons, les artistes s'écartent un peu, l'univers est dilué dans plein de sous-groupes, tout le monde devient plus solitaire, comme le Ghost Dog. Le rap est en train de changer et le Wu va se réinventer dans autre chose. C'est peut-être ça le vrai propos du film Ghost Dog. Parce qu'il n'y a pas vraiment d'histoire en vrai. Il y a juste des pérégrinations d'un personnage comme ça qui a l'air complètement atypique et intemporel, anachronique avec son code. Son propos, c'est peut-être justement de marquer la fin d'une ère où le sampling musical et cinématographique était devenu la base. Derrière, ça va se transformer presque en pastiche ou presque en parodie. Et finalement, ça n'aura plus la même force que cette histoire de sample qui, moi, m'a créé, qui, moi, m'a développer tout cet univers qui était vraiment quelque chose de très très années 90. Donc, Ghost Dog, ça marque vraiment la fin. Et finalement, pour vous parler du Wu-Tang dans Music Sound Better With Us, j'ai peut-être commencé par la fin.
Yes! Maintenant, ils disent que la glace est vraiment bonne pour la santé.
Et cette fin d'une époque, vous la retrouvez sur notre boutique Music Sound Better With Us avec une sélection autour du Wu-Tang, de Reza, de Jim Jarmusch et de Ghost Dog. Car c'est aussi ça l'histoire de Music Sound Better With Us, la passion à travers les multiples références, cinéma comme musique, les objets, les disques, les souvenirs. A très bientôt pour un nouvel épisode.
Golden claw talent twirling, one swirl of the fatal sword, split your Allen. Ruth killer bees, stingers back on the swarm again. The alarm again, six direction, weapon deflecting, blows connect like opposite sides of magnets. Still fragments being chipped off with slinging force lasts. With the force of being crashed in your dashboard. With no airbag, he drove a 99 Jaguar. Quick to pick a lot, lick a shot. Respect the bloods and crips a lot. Plus the guard from Watt sagging in the seat. Blasting moon beats. Trying to plot his next hit. He took a drag off the eight elements that compose atmospheric gas. About to let off his sword in full blast. If kept his mind focused, meditate in position half lotus. Avid sport novas couldn't match his magnum opus. Deluxe stroke. Sun moved like a ghost. Struck in an instance, unnoticed like a lamppost. Radar shot precision, gunfire. Explode to his clips unload. It's the samurai code. It's born, born, young lord, raise your sword. It's born, born, young lord, raise your swords. 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 Time for everyone to go record.
It's born, born, young lord, raise your sword. Time for everybody to go accord. Crept in silent and still win. Chrome silencer screwed on tight. Kept the gunshots to seal then. We attack full-fledged. With Chicago door red, bandanas tied tight around our heads. Swing with the force of a sledge. Single wedge, stainless steel blade, chop the wedge to this analog derelict's head. Who even thought that he could go against the truth and the gods and fall back from the will of Allah? You'll be facing the firing squad of 1,000 archers out to mark you. The mealtime Scully King, box bullets like jelly beans. Birds in my nest, resting up on the telly scene. Murderous rap track to me, it's legal felony. Can't accept what you analog cast be telling me. I get the verbal weapon, won't hesitate for 1 second to break your back like Big Jack from Tekken. It's born, born, young lord, so raise your swords. It's born, born, young lord, raise your swords. It's born, born, young lord, raise your swords.